Sur ce rapport aux collectivités, je me retourne vers vous, Madame Bigonneau. Ça n'a pas été difficile de travailler avec les collectivités, avec un CPIE Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est dans la culture d'Arvalis?
Non, ce n'est pas forcément dans la culture, ou en tout cas dans les fondations d'Arvalis. Ceci étant dit, ça n'a pas été difficile parce qu'ils avaient leurs problématiques, leurs exigences. Nous, on avait une règle qu'on avait définie du coup dans la convention entre l'opérative et puis Arvalis, qui était de dire qu'on intégrait toute innovation à partir du moment où on avait une chance, qu'on ait un retour sur investissement. Donc on écoutait leurs exigences à partir du moment où c'était faisable. Si je prends un exemple, ils avaient forcément par exemple une problématique relativement forte par rapport au bois et au fait d'intégrer le plus possible de bois dans le bâtiment, notamment par rapport à la filière bois en Lorraine, où il y a sûrement aussi des choses à faire. Et donc de fait, nous, on a essayé de trouver la meilleure solution et donc le meilleur résultat possible pour en intégrer un maximum, tout en restant sur des coûts transposables pour une exploitation normale en termes de coûts à la place du JB. Les premières hypothèses, si on avait écouté la totalité de leur cahier des charges, on serait arrivé à des choses complètement irréalistes pour un éleveur. Et donc là, de fait, en ayant défini la transposabilité et la faisabilité pour un éleveur de notre projet, on a trouvé la meilleure réponse possible qui intégrait du bois, mais pas que, et qui leur a satisfait en termes de compromis, là aussi, qui permettait de donner réponse à tous les acteurs, que ce soit les acteurs du territoire qui voulaient faire jouer la filière bois, mais les acteurs de l'élevage qui voulaient aussi avoir un élevage rentable.
D'accord, donc la confrontation des intérêts des uns et des autres permet là aussi de progresser, y compris avec des acteurs qui ne sont pas vos partenaires habituels, notamment les collectivités là, qui pèsent leurs déchets. Est-ce que c'est pour vous différent, plus difficile de travailler avec eux que de travailler avec un casino ou un paysagiste? Comment vous gérez ces partenariats qui sont très importants dans votre projet?
Oui, effectivement. Donc autant le compostage que la méthanisation, ce sont des activités qui reposent essentiellement sur les partenariats qu'on réussit à mettre en place sur notre territoire. Donc, effectivement, c'est très très important. Il y a un aspect, je dirais, un aspect de confiance aussi qui se met en place sur le territoire, notamment par rapport aux élus. Qui étaient à la recherche de solutions, qui se retrouvaient souvent face à des monopoles qu'ils ne maîtrisaient pas du tout en face d'eux. Et nous, on a pris l'engagement de développer des activités sur leur territoire. Moi, je leur dis souvent qu'aujourd'hui, j'ai ma compostière qui est là. Si un jour il devait y avoir un problème, j'ai mon exploitation agricole qui est à côté, je ne vais pas me sauver. Comme le directeur général d'une grosse boîte ailleurs en France. S'il y a un problème, on résout le problème, on trouve des solutions ensemble. Et ça crée des liens de confiance également. Et il y a toujours ce fil rouge pour nous qui est la finalité de la filière qu'on a mis en place, qui est quand même le retour au sol. Et aujourd'hui, tous nos partenaires nous font confiance parce qu'on sait leur montrer aussi qu'on maîtrise cet aspect retour au sol et que pour nous c'est absolument primordial parce que moi il est hors de question que je pollue mes sols avec des éléments que je pollue mes sols, donc ça donne aussi une pérennité et une vue à plus long terme sur les filières qu'on met en place.
Vous insistez et comme Madame Bigonneau d'ailleurs sur la question du long terme. Le temps des élus, c'est le temps de l'élection quand même. Hein. Comment eux, ils voient ce long terme dont vous soulignez l'importance en tant qu'agriculteur et dont vous soulignez, Madame Bigonneau, l'importance dans la construction de du conventionnement et du partenariat. C'est pas difficile, ça?
Si, c'est difficile. Si je prends l'exemple du casino, par exemple, on a signé un contrat sur 15 ans. Donc, c'est difficile, mais c'est faisable, quoi. Un partenariat, il s'inscrit dans le long terme à partir du moment où c'est gagnant-gagnant. Sinon, c'est pas possible de faire un partenariat. Aujourd'hui, les collectivités locales, elles savent que si elles nous confient leurs déchets, c'est un coût, évidemment. Mais c'est moins cher que ce qu'ils payaient avant. Maintenant, ça reste un coût quand même, mais bon, ils sont. Je veux dire, si je prends l'exemple des déchets végétaux qu'on traite aujourd'hui, on a aussi mis en place avec les collectivités partenaires des retours, c'est-à-dire que moi, je compose les déchets verts de la commune voisine. En retour, les services techniques ont à disposition du compost pour faire le fleurissement des parterres, par exemple. Je veux dire, il n'y a pas que l'économique non plus, il y a aussi il y a le retour directement sur le territoire, quoi, et les emplois qu'on peut créer aussi qui sont là, quoi, et c'est important.
Laurent, dans les futures relations sur l'éolien ou sur la filière bois, quel est l'avis des collectivités sur le fait de travailler avec une coopérative, avec un acteur économique? Ça les inquiète?
À l'occurrence, non, parce que bon, les collectivités, elles ont bien conscience de leurs limites en termes de gestion de projet. Et donc, elles sont tout à fait ouvertes à l'idée de trouver, d'avoir un partenariat avec la coopérative, voire avec d'autres acteurs du territoire, c'est-à-dire des habitants ou d'autres entreprises. Et aujourd'hui, notre préoccupation, c'est de trouver des formes juridiques qui permettent aux collectivités d'être associées, parce que pour nous, c'est important d'avoir ce partenariat. C'est une façon de crédibiliser les projets. Et parce que, bon, comme vous le savez tous, bon, des projets, par exemple, des projets éoliens, c'est pas simple à réaliser. Ça crée beaucoup de tensions sur le territoire. Et donc, à un moment donné, il faut que les collectivités puissent être partie prenante de ces discussions et de ces échanges. Donc il faut trouver des modèles juridiques qui permettent la participation des collectivités sans compromettre après les équilibres et la gouvernance d'un projet malgré tout économique.
Ouais, est-ce qu'on peut dire que vos valeurs coopératives, l'ingénierie coopérative, d'un point de vue très concret, que vous utilisez depuis des années avec vos adhérents qui sont des agriculteurs, est-ce qu'on peut dire que cette ingénierie-là, vous la mettez au service maintenant du territoire et des collectivités, et des autres acteurs du territoire d'ailleurs, sur de nouveaux projets?
Tout à fait. Moi, je pense que je peux prendre l'exemple du bois. Le Lot a, je dirais, une histoire, est un peu en avance en termes de valorisation du bois énergie. Le Conseil général a créé depuis plusieurs années des réseaux de chaleur qui fonctionnent. Qui permettent de satisfaire, de provisionner en termes de chaleur des collectivités, des structures publiques. Mais la difficulté avec ces réseaux de chaleur, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les investissements ont été réalisés. Comme il y avait des subventions en général, on n'a pas plein les investissements. Et aujourd'hui, en termes d'entretien, c'est des choses qui coûtent très cher. Et en fait, le bois, c'est la variable d'ajustement du projet et des équilibres économiques. Et donc, on a souhaité proposer aux différents acteurs et aux différents partenaires du territoire une autre façon de travailler, et notamment une forme coopérative dans laquelle on va trouver à la fois les utilisateurs de la chaleur et les producteurs bois. Et l'idée, c'est de les mettre ensemble pour créer une filière économique qui tienne la route, en termes qui soit viable économiquement, et qui permette à chacun d'y trouver son compte, c'est-à-dire à la fois l'utilisateur, il va payer ses calories moins chères que les énergies fossiles, et le producteur bois, il faut qu'il ait suffisamment de rémunération pour justifier de revenir en forêt, souvent dans des conditions qui ne sont pas faciles, quoi. Mais pour arriver à ça, il faut effectivement un partenariat public très divers, qui va associer donc des collectivités, des producteurs, la coopérative, des intermédiaires pour voir des artisans et voir des associations d'insertion qui peuvent jouer leur rôle dans ce montage-là.
Comme vous avez su le faire, Philippe, en Alsace.
Très bien, il nous reste
quelques minutes, si vous avez, je n'en doute pas, des questions à poser à nos intervenants. Je dis bien quelques minutes parce que nous sommes tous impatients d'écouter l'analyse de Philippe Lacombe.
Oui, Bernard Courtois, un groupe Hightech Alumni, merci infiniment pour ces témoignages qui sont pour sûrement la plupart d'entre nous des témoignages de confiance en l'avenir. Je voudrais, si vous permettez, vous poser deux questions aux unes et aux autres. La première question, c'est lorsque vous avez établi vos projets, quand vous avez créé vos structures, vous avez établi des comptes prévisionnels. À l'heure où vous vous exprimez, quel est le résultat par rapport aux comptes prévisionnels? Autrement dit, est-ce que on peut confirmer l'optimisme que vous avez eu et l'esprit d'entreprise dont vous avez manifesté? Et la deuxième question, je voudrais m'adresser à M. Meinrad pour lui demander ceci. N'y a-t-il pas, en fait, concurrence dans la ressource de matières premières entre la méthanisation et le compostage? Est-ce que vous avez bien fait le tri entre ce qui pouvait être valorisé par le compostage et ce qui pouvait être valorisé par la méthanisation?
Donc, est-ce que c'est le jackpot que de bosser avec un casino, Philippe?
Bon, en matière d'approvisionnement en déchets, bon, déjà c'est du travail de tous les jours, hein, puisque le digesteur, il veut manger, enfin nos gros estomacs, ils ont faim tous les jours. Et vous parliez de concurrence entre les deux filières. Alors, chez nous, au niveau local, enfin, personnellement, on n'a aucun intérêt à déshabiller Paul pour habiller Pierre, ça c'est sûr, hein, puisqu'on est impliqué dans les deux filières. On réserve les déchets végétaux et les bouts de station d'épuration à la filière de compostage et on privilégie tout ce qui est déchets d'industrie agroalimentaire, invendus de supermarché ou autres, à la filière de méthanisation. Alors pourquoi? Le compostage, le bois, tout ce qui est riche en lignine, ça se dégrade très mal dans un estomac, donc autant le composter. Et avec les bouts de station d'épuration, on a les plans d'épandage qui sont établis via la filière de compostage et on souhaite continuer comme ça. L'autre catégorie de déchets qui sont souvent des déchets un petit peu plus, comment dire, d'un point de vue sanitaire et hygiène plus spécifique et pour lesquels il faut des moyens techniques un peu différents, on a préféré la filière de méthanisation et ça va dans le sens du développement de ce qui est demandé un petit peu en termes de production d'énergie renouvelable, mais également c'est une orientation du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire de trouver des nouvelles voies de valorisation des déchets organiques pour éviter l'incinération et la mise en décharge, quoi. Donc, voilà,
par rapport à vos business plans, que ce soit sur le compostage ou sur la méthanisation, les...
Alors, sur le compostage, on va dire qu'ils ont été à peu près maintenus les 5 premières années. Ensuite, tout ça a descendu un petit peu. C'est pour ça qu'on s'est orienté aussi en même temps et plus sur la valorisation des produits qu'on fabriquait, hein, en sortie de filière. Donc, il faut aussi toujours savoir s'adapter, quoi, hein. Et par contre, sur la méthanisation, alors là, je dirais que... ça n'a absolument rien à voir. Enfin, je m'explique. On a fait des business plans qu'on a dû faire pour les études de faisabilité, pour les banquiers, évidemment. Aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on fait. Ça fait à peine un an et demi qu'on a démarré, quoi. On avait prévu deux salariés sur notre site de méthanisation. On en a 8. Je dirais que ça va dans le bon sens parce que c'est aussi parce que l'activité collecte s'est plus développé que ce qu'on pensait. Par contre, si vous voulez, il y a des sous-produits de l'industrie agroalimentaire qu'on avait mis dans le business plan en tant que ressource, c'est-à-dire qu'on facturait le traitement, alors qu'aujourd'hui, on l'achète. Donc ça va très, très vite. Et nous, on a la malchance, dans ce cas-là, d'être trop près de l'Allemagne, puisque les Allemands vendent l'électricité beaucoup plus cher que nous, donc viennent nous piquer une partie de la ressource, quoi. Donc ça, c'est un petit peu difficile à gérer aussi.
Et concrètement, vous gagnez de l'argent ou vous en perdez ?
Concrètement, aujourd'hui, sur la méthanisation, on se donne un salaire, hein, parce que le bénévolat, quand il faut se lever 3 fois dans la nuit, ça tient pas longtemps. Et on paye les salaires de nos salariés. Et pour le moment, on est en démarrage, donc on est en déficit, mais on espère bien pouvoir sortir des dividendes.
Oui, c'est tout récent, ans, mais, c'est 2012, hein, le démarrage.
Et voilà, c'est du boulot, quoi. Enfin, c'est pas gagné d'avance, quoi. Et sachant que, pour revenir sur la notion de contractualisation, aujourd'hui, on s'adresse à des industriels ou les GMS avec qui il est hors de question de signer un contrat sur plus de 2 ans. Quoi.
Laurent, solaire, ça va?
Ça va, sauf cette année. Alors, une des caractéristiques des énergies renouvelables, c'est quand même que les niveaux des investissements sont très importants, que ce soit la méthanisation. Ouais.
Combien de millions le parc
Le parc solaire a coûté 34 millions d'euros, mais sur le projet éolien là, sur lequel on travaille, en partenariat avec Valorem, c'est 23 millions. Bon, les parcs et les méthanisations, c'est également très cher. Donc, nous, lorsqu'on a construit notre business plan pour le solaire, bon, on a été d'abord, on n'avait pas trop de recul sur cette technologie, donc, et ensuite il fallait que le dossier soit bancable, donc on a été relativement prudent. Donc aujourd'hui, on a de très bonnes surprises. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que unanimement, le conseil d'administration de la structure, qui est composé uniquement d'agriculteurs, et a décidé que de diviser en trois ces ressources nouvelles qui apparaissaient. Un tiers pour donc être directement distribué aux associés, un autre tiers pour servir de réserve au cas où il n'y a plus de soleil, et le dernier tiers pour servir de bras de levier pour encourager de nouveaux projets. Et c'est sur ce dernier volet là qui nous permet aujourd'hui d'envisager des investissements sur une diversification en termes d'énergie renouvelable.
Et pas besoin de se lever la nuit sur le solaire, contrairement à la méthanisation. Madame Bigonneau, vous, votre problème est plus de produire des références, mais on a bien senti dans votre propos l'attachement à l'économie et à expérimenter des choses qui soient transposables dans la vraie vie, c'est-à-dire sur les exploitations agricoles. Et est-ce que vous avez eu des surprises sur vos références au niveau économique ?
Alors en fait, on a deux business plans, nous. On en a, puisqu'on vous avez compris qu'on a coupé le bâtiment en deux, c'est-à-dire la partie expérimentation et la partie application. On a donc deux objectifs différents. Sur la partie application, très clairement, on vise à gagner de l'argent, si possible, ou au moins être à l'équilibre. Au bout de 5 ans, on va dire qu'on paye la main-d'œuvre en moyenne sur les 5 années, donc on est à l'équilibre. Et puis sur la partie expérimentation, on accepte de dépenser de l'argent. Et on avait dit dès le début qu'on acceptait de dépenser de l'argent, parce que qui dit produire des références, qui dit aller sur des innovations, c'est un petit peu ce que présentait Hubert Garot précédemment dans la précédente tour de table, dit accepter de prendre un peu de risque financier, un risque qu'on a calculé, maîtrisé et donc quantifié, et qu'on essaye donc de respecter à ce niveau-là. Mais donc voilà, on a deux objectifs différents. Sur l'expérimentation, on souhaite être ambitieux, d'où aussi l'intérêt de s'engager à long terme, hein, puisque du coup, il ne s'agissait pas que les partenaires quittent le navire dès qu'on dépensait un peu d'argent la première année. Mais on a maîtrisé ce risque-là, et sur l'autre partie, par contre, on a les mêmes objectifs que des entreprises économiques qui veulent équilibrer leurs comptes, voire gagner un peu d'argent.
Très bien, on va prendre une dernière question là-haut, monsieur.
Bonjour, Pierre-François Bernard, les fruitières du Doubs et du Jura, donc Fédération des coopératives laitières. Deux constats rapides à la question. On n'est plus dans la recherche, développement, on est bien dans notre transformation sociale et l'innovation sociale, on l'a vu, et du coup le rôle des acteurs est primordial. Deuxièmement, le territoire devient important, et je ne suis pas forcément d'accord avec le titre, parce qu'on est quand même dans de la coopération, et pas dans la collaboration, on est dans la coopération territoriale, et le territoire devient un laboratoire d'innovation sociale, et donc du coup les acteurs de transformation. Ma question par rapport à ces deux constats, donc on est plutôt dans, alors je vais faire attention parce que mon président de chambre qui est là, on est plutôt dans des filières qui marchent bien, nous avec des AOC. Est-ce que vos filières, vos process métiers étaient générateurs de plus-value, et est-ce que ces innovations étaient une réponse ou non à la non-valorisation des process métiers? Sous-entendu, est-ce qu'on arrive à innover quand des process métiers et des filières marchent bien? Et deuxième question, quel est le au-delà des pionniers que vous avez été, est-ce que vous arrivez à diffuser? Comment on diffuse ces innovations? Comment on emmène les gens au-delà des pionniers?
Alors Laurent, territoire de Figeac, il n'y a pas d'AOC, territoire d'élevage. On ne peut pas dire que ce soit florissant d'un point de vue économique. Ça ne vous empêche pas d'innover?
Non, je pense que c'est... au contraire, je pense que les agriculteurs sont en règle générale en attente par rapport à tout ça. Le fait d'avoir proposé cette technologie photovoltaïque, c'est évidemment un complément de revenus. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des autres énergies renouvelables, il y a également une attente de ce côté-là, de façon à pouvoir valoriser toute cette ressource qui est disponible sur le territoire. Bon, et en termes de diffusion, c'est vrai que on a passé beaucoup de temps à réaliser le projet, quoi. Donc aujourd'hui, on a reçu beaucoup de groupes d'agriculteurs, et à partir de cette expérience, il y a au moins une dizaine d'autres projets qui ont été réalisés.
C'est fou le nombre d'assemblées générales qui se font dans les bus. Entre le... Philippe, la diffusion, on en revient à l'association des composteurs de France et à l'association des méthaniseurs de France. Ça diffuse?
Nous, en pratique, on a démarré le financement de l'association des agriculteurs composteurs de France via des fonds CASDAR pour réaliser un guide pratique du compostage en collaboration avec TRAM. Donc c'est de la diffusion. Aujourd'hui, l'association des agriculteurs méthaniseurs de France qu'on a créée spécifique à la méthanisation, son objectif principal, c'est d'accompagner le développement de la filière méthanisation en France, tout comme on l'a fait pour le compostage, mais c'est d'accompagner cette filière de manière à ce que l'agriculture reste maître à bord, quoi. C'est-à-dire que pour nous, c'est absolument primordial que ce soit l'agriculteur qui reste l'acteur dans la filière, que ce soit la filière de compostage dans notre cas ou la filière de méthanisation, puisque c'est un nouveau rôle à jouer et à prendre sur le développement du territoire. Et moi, aujourd'hui, souvent on me dit « ouais, mais toi, en fait, tu n'es plus agriculteur, tu es un industriel, quoi. » Alors, je suis tout à fait conscient que c'est des structures assez importantes qu'on a mis en place, mais aujourd'hui, je constate que ça peut pas fonctionner sans qu'on soit agriculteur. En tout cas, moi, je me sens plus agriculteur que jamais, quoi.
Madame Migonneau, la diffusion, on l'a vu localement, elle fonctionne extrêmement bien. Moi, la question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette question de la diffusion, est-ce que cette ingénierie que vous avez mis en œuvre dans le partenariat, alors est-ce qu'elle est coopérative ou collaborative, on en discutera effectivement, et est-ce que ce savoir-faire là pour enrôler progressivement des partenaires, pour enrichir le projet initial des apports de chacun des partenaires, est-ce que cette compétence là vous la diffusez à vos collègues chez Arvalis ou à d'autres, au-delà de la seule expérimentation technique, qui est intéressante évidemment, mais voilà, diffusion de l'expérimentation technique, diffusion du savoir-faire partenarial.
Je dirais que sur la diffusion, il y a différentes choses. Il y a le fait de faire savoir ce qu'on fait, etc. Et puis il y a le fait après que ceux qui nous ont écoutés appliquent. Et en cela, j'avais envie de dire, et depuis tout à l'heure j'y pensais, qu'il y a différents niveaux d'innovation, et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de petite ou de grande innovation, me semble-t-il. C'est-à-dire que on peut avoir des petites choses qui coûtent presque rien, qui apportent finalement une vraie plus-value en termes de confort du travail, en termes de simplification de tâches, en termes de sécurité, etc. Et qui, de fait, une fois qu'elles ont été montrées, elles sont tout de suite transférées, tout de suite applicables. Et puis à l'inverse, il y a d'autres innovations qui sont un peu plus complexes, qui méritent un peu plus de temps. Et là, on constate souvent à Arvalis que lorsqu'on communique dessus, elles ne sont pas directement transférées, appliquées dans les exploitations, parce qu'il faut un peu plus de temps, il faut... pour les appliquer, pour les mettre en œuvre, pour changer des pratiques, etc. Donc je crois que c'est de toute façon quand même un progrès si on y va par pas, c'est-à-dire forcément les innovations qui ont été plus rapidement transférées chez nos éleveurs voisins, c'est les innovations les plus simples à mettre en œuvre. Par exemple, des barres au garrot réglables, ce qu'on avait nous jamais vu dans les exploitations voisins, en ayant mis tout simplement un troisième point, nous on retourne nos barres avec un seul doigt ou presque, et ça de fait, un éleveur, dès qu'il a vu ça, il l'applique chez lui parce que ça coûte presque rien. Et à l'inverse, il y a d'autres choses qui vont mettre plus de temps à transférer, même si on communique d'ores et déjà dessus. Donc il y a différentes notions, je dirais, dans la diffusion du savoir-faire.
Très bien. Merci à vous trois.